Alléluia. Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance. Quel beau mot! La puissance de Dieu. Non pas une puissance qui écrase, mais une puissance qui relève. Alléluia. Alors on va continuer ce matin, le dernier volet d'une pensée que nous avions entamée il y a quelques semaines sur l'appel de Dieu. Alors il y a eu un petit défaut technique chez moi, parce que j'aurais voulu vous apporter une petite photo, bon ça aurait été un petit clin d'œil humoristique un peu, c'était une photographie, j'ai trouvé ça sur internet, vous le trouverez comme moi, hein. Un petit panneau qui était dans une église. Alors vous savez, souvent on a un petit panneau dans les églises qui demande de couper les portables, n'est-ce pas? Comme vous avez tous fait ce matin, c'est bien, merci. Et puis dans une église, il y avait un petit panneau comme ça, avec quelques mots d'introduction, et ce panneau disait cela: il est probable qu'en entrant dans cette église, vous ressentiez l'appel de Dieu. Par contre, il est peu probable qu'il vous contacte sur votre téléphone. Merci d'éteindre votre portable. Il est probable qu'en rentrant dans cette église, vous ressentiez l'appel de Dieu. Alors, c'est un mot qu'on utilise souvent dans nos milieux, mais on a tantôt un peu du mal à discerner ce que ça signifie réellement. Alors, on a vu qu'effectivement, cette expression « appel de Dieu » est bien une expression biblique. Ce n'est pas une expression inventée par les hommes. Il y a véritablement, dans sa parole, Dieu qui parle de son appel. Alors, on avait vu, au travers justement de cette référence en Éphésiens 1:18, où Paul encourage les Éphésiens à être illuminés, que les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et en fait, là, cet appel-là, cet héritage, cette richesse, cette gloire, cette espérance, il est parlé de l'appel au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En Actes chapitre 17, verset 30, vous lirez à la maison, il est écrit « sans tenir compte des temps d'ignorance ». Parce que nous avons été ignorants et nous sommes tous des ignorants. Avant de connaître Dieu, nous ne connaissions pas Dieu. Et il dit « sans tenir compte des temps d'ignorance ». Dieu ne regarde pas, ne va pas nous porter toujours accusation sur des choses dont nous étions ignorants. Quand celui qui est dans l'ignorance, il fait des erreurs et c'est normal, il est dans l'ignorance. Et Dieu dit « sans tenir compte de ces temps d'ignorance ». Maintenant, Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Il y a un temps où nous pouvons être ignorants. Il y a l'appel de Dieu à nous repentir. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans l'ignorance que cela nous excuse. Mais Dieu nous appelle maintenant à la repentance. Alors il y a un appel qui est universel, adressé à tous les hommes, les 6 milliards d'individus dont nous faisons tous partie. Et c'est le premier appel auquel nous devons répondre. Seigneur, pardon. Pardon pour tout ce que je sais qui est de mauvais dans ma vie. Viens changer mon cœur. Viens changer ma vie. Et Dieu ne demande pas d'autre chose que cela. Celui qui confesse ses péchés, qui se repent de ses mauvaises voies, qui se tourne vers l'Éternel, reçoit le pardon et la transformation de son cœur. Alléluia. Le ciel est ouvert pour tous, même pour les pécheurs. Mais pour les pécheurs qui se repentent. Il y a un deuxième appel que l'on a pu voir également là, la dernière fois au travers de ce verset. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Là, Paul parle à des chrétiens. Il ne parle pas seulement à l'humanité, il ne parle pas à des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas rentrés dans cette espérance, mais il dit à chacun des chrétiens, à chaque chrétien, que chaque chrétien marche. Donc c'est bien dans son développement de vie, selon l'appel qu'il a reçu. Et ça, c'est un appel donc qui est adressé à tous les disciples. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Si Dieu nous a sauvés, c'est pas pour qu'on aille directement au ciel, il nous laisse un peu sur terre pour que nous fassions des bonnes œuvres. C'est la raison d'être ici. Nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres, à produire les bonnes œuvres. C'est pas ça qui nous sauve, on a vu ça, hein. Ça c'est la repentance qui nous sauve. Mais quelque part, Jésus va dire, les œuvres prouvent notre salut. Personne ne peut dire « Ah, je suis sauvé » et pratiquer de mauvaises œuvres. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et si les fruits sont mauvais, c'est l'arbre qu'il faut couper. Mais nous sommes créés pour cela. C'est notre vocation. Et donc, ça, c'est pas l'appel au monde entier, c'est l'appel aux chrétiens. Chaque chrétien est appelé aux bonnes œuvres. C'est ce qu'on appelle le service. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Tous. Tous. Et puis, on va voir ce matin un troisième appel que l'on vous distingue en Romains chapitre 11 verset 29. Alors faut relire un peu dans le contexte, je résumerai. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors là il est parlé de qui? Il est parlé en fait du peuple d'Israël qui, parce qu'ils ont refusé justement de rentrer dans leur vocation initiale, le peuple d'Israël était le peuple choisi par Dieu pour annoncer sa parole tout autour, pour montrer au monde entier combien il est bon de se laisser conduire par lui. Alors, je résume. Hein. Et actuellement, c'est l'Église, ce sont les croyants qui ont réalisé cette plénitude de la grâce avec Jésus. Mais Paul va dire, mais attendez, c'est pas pour ça que Dieu a oublié Israël. C'est pas pour ça que les projets que Dieu avait pour Israël sont oubliés. C'est juste Israël qui est mis de côté par rapport au projet que Dieu a formé pour lui. Mais tôt ou tard, vous verrez, Israël servira l'Éternel. Et c'est le sens de cette phrase dans son contexte. Car Dieu ne se repent pas de ses dons. Il n'a pas oublié Israël. Il n'a pas dit, tiens, je t'ai donné, mais maintenant je te reprends. Je t'ai appelé à servir, mais maintenant, comme tu me tournes le dos, je refuse. Non. Dieu a appelé. Il attend un service particulier pour Israël. Et ça, c'est le troisième aspect de l'appel, que j'appellerais un appel spécifique. Nous sommes tous appelés à servir. Mais Dieu, dans sa souveraineté, et dans sa souveraineté seule, appelle des individus, des frères, des sœurs, à un service particulier. Dieu appelle. Dieu a donné aux hommes pour des ministères particuliers. On verra que derrière le mot ministère, en fait le mot service et le mot ministère c'est la même chose dans nos Bibles, sachons-le. Il n'y a pas de distinction, c'est plus une façon de distinguer ministère en spécifiant appel spécifique et service, ce à quoi nous sommes tous appelés, mais c'est la même mentalité. On est au service. Cet appel spécifique, on pourrait le définir au travers de ce mot, c'est l'appel à la consécration. Un appel à la consécration. Ce matin, on ne va pas voir tout ce qu'il y a à dire sur le service. On va vraiment focaliser notre attention sur cette relation entre l'appel et nous-mêmes. J'ai mis deux références, je vous les lis pour que vous compreniez quel est le sens de ce mot consécration. Colossiens chapitre 4, verset 17. Il est dit à un homme, à un frère qui s'appelle Archip, « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur. » Vous comprenez? Le ministère, il est reçu de Dieu afin de bien le remplir. On voit bien là les deux aspects. Il y a Dieu qui donne et il y a notre responsabilité de bien remplir ce ministère. Pareil, Paul va dire à Timothée dans la seconde épître, chapitre 4, verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Remplis bien ton ministère. Ce que Dieu t'a donné, ce que tu as reçu dans ton cœur, ce que le Seigneur te confie, c'est une chose. Mais toi, je t'exhorte à bien remplir. Alors on ne verra pas ce matin les critères pour être un bon serviteur de Dieu, mais on va voir trois aspects. On va voir comment discerner l'appel de Dieu. On va voir un point qui est essentiel, la différence entre l'appel et l'envoi. Et on verra comment répondre à cet appel. Alors, comment savons-nous si nous avons reçu un ministère, un appel spécifique de la part de Dieu? Alors, il n'y a pas de schéma type. Il n'y a pas de schéma type, mais il y a quand même ce qu'on pourrait appeler des jalons. n'y a pas un maçon qui travaille exactement comme l'autre maçon, mais il y a quand même des principes de base. On ne fait pas le béton n'importe comment. Il y a quand même des ingrédients à mettre dedans. Chacun le met un petit peu à sa sauce, à son petit grammage, mais il y a des repères. Et il n'y a pas de point spécifique. De l'appel au ministère, mais il y a quand même des points communs qui confirment et qui valident cet appel. Le premier point, c'est le travail dans le cœur. Comme vous vous rappelez, avec les deux autres appels, ça se passe dans le cœur, dans la conscience, dans l'intimité. L'appel à la repentance, ça commence de l'intérieur. Il y a quelque chose qui nous travaille, qui dit « Mais Seigneur, il faut que je fasse une démarche. Vous n'avez pas une voix, vous n'avez pas une menace, vous n'avez pas... » Non, c'est la conscience qui travaille. Et quant à l'appel au ministère, c'est pareil, ça commence du dedans, du cœur. C'est quelque chose qui est là, au-dedans de vous. Ça ne veut pas dire que vous savez précisément pourquoi vous êtes appelé. Je connais un frère, il avait à cœur de servir la jeunesse. « Seigneur, je veux te servir. » Il sentait un truc qui bouillait. Il a fait toute sa vie dans les maisons de retraite. Mais on sait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui travaille de l'intérieur. Il n'y a rien de précis, mais il y a un travail qui est de l'intérieur. Quelque chose qui fait que... on sait que notre raison de vivre, c'est de servir. C'est quelque chose qui est une conviction. C'est notre sens à la vie. Au-delà de faire les choses, au-delà d'être, il y a là cette conviction que c'est là ma place, c'est là notre place. Ça devient une priorité dans notre vie. Rappelez-vous Moïse. On aura l'occasion ce matin de voir plusieurs exemples. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais j'en garderai quelques-uns qui nous permettront de voir différents aspects. Et j'essaie de prendre les plus connus. Moïse. Avant d'être ce libérateur du peuple d'Israël, son cœur était travaillé avant. Quand il était là, en tant que fils de Pharaon, il bénéficiait de tout ce qu'il voulait. Ouais, mais n'empêche, il y a un truc qu'il travaillait. Il voyait l'injustice de son peuple. Il voyait ça régulièrement, souvent. Et ça le travaillait, à tel point qu'un jour, il y a un soldat qui violente un de ses frères, et il réagit, il se lève. Il veut agir, il y a un travail dans son cœur. Il ne pouvait pas supporter de voir la souffrance de son peuple comme ça. À part que c'était pas le bon moment. Mais on voit qu'il y a un travail dans son cœur. Un travail au plus profond de lui. Le ministère, c'est plus qu'un service. Le ministère, c'est plus qu'un service, c'est un fardeau. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, mais, et je ne vous le souhaite pas d'ailleurs, mais chaque service doit être fait de bon cœur, avec allégresse, avec joie. Celui qui est appelé à un ministère ne porte pas cela comme une joie, mais comme un fardeau, comme une responsabilité, comme une vocation. Son cœur est porté, alourdi par la mission qu'il a apportée. C'est Paul qui va le dire. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Vous voyez la différence? On peut avoir des envies, des aspirations, et c'est bon. D'ailleurs, il nous est dit même, pour les anciens, celui qui aspire à la charge d'un évêque, aspire à quelque chose de louable, de bon. Il y a des aspirations qui sont bonnes. Mais la différence entre un service... il y a un ministère, c'est que c'est une charge, c'est un fardeau. Jérémie, chapitre 20, verset 9. Ce Jérémie, c'est un prophète qui en a bavé. Alors il s'est dit un jour, je ne veux plus faire mention de toi. Seigneur, j'en ai marre, je ne veux plus parler de toi, c'est fini. Je ne parlerai plus en ton nom. Mais quand je dis ça, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne peux pas. Et ça, c'est le ministère. Il y a quelque chose qui fait que nous savons que c'est pour cela que nous vivons. On ne le sait pas, on ne connaît pas la voie, le schéma particulier, mais ça travaille dans le cœur. Deuxième aspect qui discerne, qui nous permet de discerner l'appel, c'est la confirmation de Dieu. Si Dieu vous appelle, si Dieu nomme, si Dieu vous donne... alors Dieu confirme. Il le confirme sous deux aspects. Il peut confirmer au travers d'une parole prophétique, inspirée. C'est l'exemple de Paul, par exemple, Actes chapitre 9, verset 15. « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » C'est bien ce qu'il a fait. Il vient juste de se convertir. Il vient juste d'avoir la révélation de Jésus. Il a encore les yeux aveugles. Et puis, voilà, il y a Ananias qui dit, voilà, il reçoit de la part de Dieu que cet homme est un instrument que Dieu a choisi pour porter sa parole dans le monde entier. Et beaucoup, nombreux, ce sont qui ont entendu une parole prophétique, une inspiration, à des moments particuliers dans leur vie. C'était comme si Dieu était là, mettait des jalons et confirmait qu'effectivement, tu es appelé. Mais cela ne suffit pas, mes bien-aimés. Dieu m'a appelé, c'est bien, mais il faut voir le fruit. Je suis un pommier. Eh oui, mais tu donnes que des cerises, alors il n'y a pas un problème quelque part. Je connaissais un jeune homme, par exemple, il dit « Oh, moi, je vais être évangéliste !» Ah oui, c'est formidable. Mais à part que chaque fois qu'il y avait un programme d'évangélisation, il n'y était jamais. C'est un peu bizarre, quand même. Alors, en discutant après avec lui, « Ah oui, mais il faut être évangéliste parce que les évangélistes, ils voyagent. » Ah oui, d'accord. Donc, rassurez-vous, il n'est pas évangéliste. Hein. Mais c'est ça. Un appel se confirme avec le fruit. On voit, par exemple, un monsieur qui s'appelait Philippe dans la Bible. Il faisait partie des premiers convertis. Et cet homme, il a été trouvé fidèle. Et on le voit qu'il est établi comme diacre. C'est-à-dire qu'il servait dans l'église au travers de l'organisation matérielle. Philippe, Actes chapitre 6. Et puis voilà que cet homme, il a à cœur d'aller annoncer l'évangile en Samarie. Mais c'est même pas... On a même l'impression que c'est un peu les circonstances qui l'ont amené. En Actes chapitre 8, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il n'y a rien qui explique pourquoi il y est allé, mais étant y allé, en tant que bon disciple, il annonce l'évangile aux gens. Et voilà qu'il se passe un réveil extraordinaire dans cette ville de Samarie. Les gens ont le cœur touché, ils se donnent à lui, à Jésus, hein. Ils se convertissent. Et c'est ainsi qu'en Actes chapitre 21, verset 8, on parle de Philippe comme étant l'évangéliste. Il y a eu le fruit qui a confirmé qu'il y avait dans ce bonhomme-là quelque chose de plus qu'un diacre. Dans le travail, il y a la confirmation. Et c'est pour ça que quand la parole de Dieu nous demande, en tant que chaque disciple, de servir le Seigneur, vous rappelez-vous de ce verset qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Alors si déjà effectivement on est dans cette logique, Seigneur, je m'engage, tout ce que je peux faire de raisonnable, on retrouve l'équilibre qu'il faut, je sers le Seigneur. Et là, dans le service, on va voir, oh bah lui là, il y a quelque chose, il y a du fruit. Et ça va préciser, ça va annoncer, ça va conduire, ça va orienter les choses. Je me souviens d'un ami qui avait vraiment à cœur les enfants. Il a commencé à travailler auprès des enfants et aujourd'hui, il anime des programmes d'animation, d'évangélisation dans les rues avec les enfants. Mais ça a commencé comme ça. Il a eu à cœur. Alors, il a commencé, il faisait plein de choses dans l'église. Il faisait la musique, il faisait le chant, il faisait la prédication. Et puis, il y a eu les enfants. Et là, on a vu qu'il y avait véritablement la marque de Dieu, le fruit de Dieu dans ce travail-là. Et aujourd'hui, il se consacre aux enfants, vous voyez. Mais il avait ce cœur de disciple à servir et les choses se sont orientées. La troisième signe qui peuvent discerner un appel, alors on a vu le travail dans le cœur, personnel, il y a la confirmation de Dieu par le fruit et par ces appels au travers de paroles prophétiques, et il y a l'approbation de l'Église. Allez, prenons un exemple un peu bulldozer. Si vous commencez à dire « Oh, j'ai un appel !» et que l'Église ne le ressent pas, mettez ça en repos. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. C'est-à-dire qu'il y a un manque de crédibilité dans votre vie. L'approbation de l'Église est un signe essentiel au ministère. Je vous rappelle que les ministères ne sont pas là pour se glorifier eux-mêmes. Les ministères sont là pour encourager chaque chrétien à développer son service.
Amen.
Alors si l'Église elle-même ne reconnaît pas en vous cette capacité, alors qu'est-ce que vous allez apporter? C'est du bon sens. Si vous n'êtes vous-même pas un sujet d'encouragement, parce que rien que dans le cœur il y a comme une retenue, alors vous aurez beau faire, ça n'arrivera pas. En Actes chapitre 6, verset 3, c'était un des critères qui était donné au diacre. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage. De qui l'on rende un bon témoignage. Il ne suffit pas de savoir lui-même, soi-même, dire, oh, moi je suis appelé, c'est bien, mais est-ce que les autres rendent un bon témoignage également de toi? Qu'il soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargions de cet appel. Et Paul le confirme en 1 Timothée, chapitre 3, verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux de dehors. Donc ce n'est pas seulement le bon témoignage de l'Église, il faut aussi un bon témoignage de dehors. Et Paul dira un peu plus tard, afin que l'Évangile ne soit pas discrédité à cause de vous. Donc il faut cet appel intérieur. Il faut qu'il y ait le fruit, confirmation par des paroles inspirées, et il faut qu'il y ait l'approbation de l'Église. Est-ce que vous croyez que l'Église est inspirée? Eh oui. Faisons attention à ce genre de langage, où certains se croiraient au-dessus de l'intelligence de l'Église. L'intelligence est animée par la sagesse de Dieu, et il faut savoir l'écouter. Il y a une différence entre l'appel et l'envoi. Il y a le temps de l'appel qui peut venir même le jour de la conversion. L'appel ne dépend pas de ce que nous sommes. On a vu tout à l'heure que l'appel, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est comme les dons spirituels. Il n'y a pas besoin d'attendre des mois, des années de conversion pour pouvoir exercer des dons spirituels, aspirer aux dons spirituels. C'est Dieu qui donne de toute manière. Mais il faut une disposition de cœur. Et on peut, le jour de notre conversion, ressentir déjà. D'ailleurs, au début, on se demande même si c'est vraiment ça, parce que comme c'est associé à notre conversion, on a l'impression que, parce que c'est comme ça. Et pour quelques-uns, on aura l'impression que tous les chrétiens devraient vivre ça, et c'est avec le temps qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement quelque chose de différent dans notre cœur, de plus intense, de plus viscéral que dans le cœur des autres croyants. Mais faisons attention de ne pas considérer ça comme de la tiédeur de la part des autres. Il y a une différence, effectivement. Alors, il y a le temps de l'appel qui peut venir très vite, qui peut venir plus tard aussi, vous savez. On peut en prendre conscience plus tardivement. Je le rappelle, cet appel n'est pas forcément une direction claire, nette. Rappelez-vous de la semaine dernière, c'était Marcel Georgel qui était venu. Et l'année dernière, quand il était venu, il nous avait expliqué comment il était rentré dans ce ministère auprès des prostituées. Il y est allé en tâtonnant. Hein. Il était investi comme pasteur dans une assemblée et puis il a senti un moment qu'il y avait un bouleversement dans sa vie, les fruits n'étaient plus là, il s'est remis en question profondément, et là il a été dirigé à travailler auprès des prostituées, et là les fruits sont venus, les portes se sont ouvertes, il a compris que son ministère s'orientait dans ce sens-là. Donc on doit être très sensible, parce qu'un ministère peut changer. J'ai connu je le connais en tant que pasteur, mais il a commencé son ministère en tant qu'évangéliste. Et puis il a senti qu'avec le temps, le Seigneur l'orientait plutôt vers un travail pastoral. Il y a le temps de l'appel, il y a le temps de l'envoi. Paul, revenons à lui. On voit sa conversion en Actes, chapitre 13. Par cette la parole prophétique qu'on a vue tout à l'heure, Ananias qui va le voir et qui dit « Voilà, cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Mais c'est seulement en acte 13 que l'Esprit dira maintenant, écoutez le choix des mots qui sont dans la parole de Dieu, maintenant, mettez-moi à part Barnabas et l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oh, excusez-moi, il n'y a pas le maintenant. L'Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Entre acte 9 et acte 13, nous, on lit ça en 10 minutes. Mais encore, on prend un peu de temps. En réalité, entre acte 9 et acte 13, il y a 10 ans. Oh, Paul ! 10 ans ! Eh ouais, 10 ans entre le moment où il a été converti, où il y avait cette parole prophétique, c'est celui-là, là, c'est pas n'importe qui, c'est un instrument que j'ai choisi. Est-ce que beaucoup de gens ont entendu ça dans leur vie ? Et 10 ans après, Dieu dit, ok, c'est bon, mettez-moi à part, consacrez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il y avait bien ce travail dans leur cœur pendant 10 ans. Et on connaît la fougue de Paul. Moïse, combien de temps ? 40 ans ! Entre le moment où ça bouillonnait dans son cœur, il est allé casser la figure à l'Égyptien. Waouh, mince, elle est un peu trop loin, il a dû fuir. Mais ça travaillait dans son cœur. Et là, pendant 40 ans, c'est long 40 ans. Il y a de quoi oublier pas mal de choses en 40 ans. Et au bout de 40 ans, écoutez ce que dit Dieu. Maintenant. Maintenant, va! C'est le moment! C'est maintenant! C'était pas hier, c'était pas il y a 40 ans! Ce sera pas non plus la semaine prochaine, Moïse. C'est maintenant. Va! Je t'enverrai. C'est pas toi qui vas y aller, c'est moi qui vais t'envoyer. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant! Il y a le temps de l'appel, il y a le temps du travail. Et il y a le temps de l'envoi. 40 ans. Joseph. Déjà tout gamin, il avait des visions. Oh, quand il les racontait, tout le monde sentait que, oh là toi Joseph, tu te prends pour qui là ? Eh oui, il a bien été l'instrument choisi par Dieu. Il a bien vécu toutes ces visions. Mais voyez le chemin sinueux, tortueux, ténébreux. Entre le moment où il a reçu l'appel, où ça travaillait, où il avait des visions, des confirmations divines, et le jour où il a été l'homme de la situation. Le chemin était difficile, douloureux, méprisé. David, qui a reçu l'onction royale, vous savez à quel âge à peu près ? On n'a pas d'âge précis, mais c'est un jeune homme. Alors on va dire que c'est un adolescent. Attendez, il reçoit l'onction royale. Il reçoit de la part du prophète, toi là, tu seras roi de France. Oh, ce ne sera plus un beau bonnet à rayures que tu auras sur la tête, mais ce sera une belle couronne. Oh, c'est le prophète qui m'a dit ça. Ouais, il est devenu roi vers l'âge de 30 ans. Il y a une différence entre l'appel et l'envoi. Et le mieux, Jésus, est-ce qu'il avait besoin de lui d'apprendre des choses, d'être formé, quoi que ce soit? Jésus, il est Dieu sur terre. Je suis sûr que dès l'âge de 5 ans, il aurait déjà pu nous apprendre des choses sur les choses d'en haut. Il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans environ pour commencer son ministère public. Incroyable. Jésus. Alors que déjà à 12 ans, il calait déjà les religieux au temple. Mais c'est qui ce garçon-là? Il est un peu perturbant. Quelle est cette intelligence qu'il y a dans cet enfant? Oh, pardonnez-le. On croyait qu'il était avec nous. Et voilà que les parents le ramènent. Bon, et, hein, t'obéis, hein, Jésus? Oui, ok. Il faut bien pourtant que je m'occupe des affaires de mon père. De quoi tu parles? Mais il attendra le moment favorable pour partir. Il y a le temps de l'appel. Il y a le temps de l'envoi. Ce temps entre l'appel et l'envoi est essentiel. C'est un temps de formation. Un temps de formation. Élie, quand il a choisi de choisir son successeur Élisée, cet homme était au travail. Il labourait son champ. Lorsque Dieu a choisi Gédéon, cet homme était en train de fouler le grain. Lorsque Moïse a été appelé, il était là, berger au milieu de, de son désert. Lorsque l'envoi a été appelé pour David, il était, pendant ce temps-là, entre ce temps, il était en train de bagarrer contre les ours et contre les lions. Le temps entre l'appel et l'envoi est un temps de formation. Alors, on ne va pas rentrer dans les critères pour être un bon serviteur de Dieu, mais comprenons que s'il y a cet appel dans votre cœur, que ça travaille, sachez que le Seigneur est en train de former, de vous travailler dans trois domaines particuliers. Déjà, la première formation que Dieu va faire, c'est nous-mêmes. Il va travailler votre caractère. Il va travailler votre caractère. Je vous le dis, dans les églises, on a bien plus des problèmes à cause du mauvais caractère du pasteur qu'à cause de l'église. Nous devons être, quiconque est dans sa responsabilité, dans son ministère, doit être irréprochable. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Qu'il soit irréprochable. Nous sommes même appelés à être des modèles, des exemples. Bien sûr, nous ne sommes pas le meilleur des exemples, mais ça doit être un travail personnel. Dieu travaillera premièrement le caractère. Et si nous ne sommes pas au clair sur ce caractère, eh ben, soit la période de formation durera, soit nous serons des ouvriers, mais pas aussi complets, pas aussi bien remplis. Paul continuera, hein, quand il parle à Timothée, il est déjà en marche, mais il dit « Remplis bien ton ministère, veille à cela. » Cette formation de nous-mêmes est essentielle sur notre caractère, sur l'endurance, dans la capacité à endurer l'épreuve, dans les situations de découragement, tout c'est entre l'appel et l'envoi. Comme tout chrétien, vous allez passer par des moments difficiles, mais peut-être parce que le Seigneur vous appelle à quelque chose de particulier, vous passerez par des épreuves peut-être encore plus difficiles. Mais cela est utile pour former le caractère. La formation pour nous apprendre à aimer notre prochain, à apprendre à vivre avec l'autre, notre vis-à-vis, nos relations, dans la patience, dans l'amour, dans l'écoute, dans la compassion, dans la soumission. Avoir un ministère, ça ne veut pas vouloir se dire se placer au-dessus des autres. Le ministère n'est pas une sorte d'indépendance dans l'église, mais c'est au contraire être au service des autres. Alors il y a tout ça, ça s'apprend, la relation vis-à-vis des autres. Et je dirais que c'est un temps de formation essentiel pour notre formation spirituelle, pour nous développer à la vie de prière, pour nous développer à la vie de l'esprit, pour nous enraciner dans la parole de Dieu. Ce temps entre l'appel et l'envoi doit être un temps de formation spirituelle. Soyons des hommes, soyons des femmes, de l'esprit, de la parole, de la prière. Alors, on glisse déjà sur ce troisième point. Comment répondre à cet appel? Parce que tout appel demande à être une réponse. Vous pouvez me rappeler quelle est la réponse que l'on doit donner au salut? L'appel au salut. La repentance. L'appel que Dieu donne à tout disciple, c'est quoi? L'obéissance, le service. L'appel que Dieu place quant au ministère, c'est le mot de la consécration. Se consacrer à. Se mettre à part pour. Que la consécration, ce n'est pas seulement une question de temps, mais c'est tout notre être que l'on place, qu'on réserve pour Dieu. Ça commence par nos sanctifications. Ésaïe chapitre 6, un verset qui est magistral. Dieu dit, qui enverrai-je pour annoncer ma parole? Et là, Ésaïe répond, Seigneur, envoie-moi. Oh, c'est beau! Qui enverrai-je? Seigneur, envoie-moi. Mais avant, avant qu'il puisse envoyer. Avant qu'il puisse envoyer, avant que même que Dieu dit « Qui enverrai-je ?» Le verset d'avant, Dieu touche les lèvres du prophète Ésaïe et lui dit « Ton iniquité est enlevée, ton péché est pardonné. » Une fois qu'il y a cette étape de purification, de netteté, de sanctification intégrale de la personne d'Ésaïe, alors il dit qui est-ce que je vais envoyer? Parce qu'il y a l'appel, mais il y a la réponse. Dieu attend une réponse. Il ne peut pas envoyer comme ça. Il attend de nous notre réponse. Et là, Ésaïe répond, envoie-moi. Mais parce qu'il y a d'abord ce travail de la sanctification. Le premier domaine de consécration, c'est le domaine de la sanctification. Amen. Non seulement d'un point de vue individuel, nous devons vivre dans la sainteté. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification, que personne ne se trompe, hein. Les menteurs, les voleurs, les cupides, les idolâtres, Dieu dit que tout cela iront en enfer. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Personne ne peut rentrer au paradis avec son fardeau de péché qu'il affectionne encore. Qu'on soit des pécheurs, oui, mais des pécheurs conscients et repentants. Mais des pécheurs satisfaits de notre péché, ça c'est... Il y a un autre endroit que le paradis pour ces gens-là. Et donc, il en est de même. Et la parole de Dieu est encore plus exigeante. Certains exemples dans la Bible, là encore je vais citer les plus connus, sont passés à côté de leur appel par manque de sanctification. Samson, Judas celui qui a livré Jésus, il est dit qu'il était appelé au même ministère que les autres. Démas, qui a abandonné le service, et Paul par amour pour les choses. Donc on peut passer à côté de l'appel, de l'envoi. Non, on ne peut pas passer à côté de l'appel, mais on peut passer à côté de l'envoi ou manquer notre envoi parce que justement, nous n'avons pas été vigilants quant à cette consécration intérieure. Une consécration vis-à-vis de Dieu lui-même. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas de servir. L'essentiel, c'est d'être attaché à Dieu.
Amen. Amen.
L'essentiel, c'est de l'aimer. C'est d'être là, de le chérir plus que tout. Le ministère vous apportera des fardeaux, le ministère vous apportera des difficultés, le ministère vous apportera des découragements, le ministère va vous épuiser, le ministère va... C'est un fardeau! Donc ne cherchez pas le ministère, ça n'a pas de sens! Si c'est dans votre cœur, alors allez-y. Mais votre consécration doit être celle d'être fixée à Dieu. Amen! C'est lui que vous servez. Et alors vous encaisserez le reste. La consécration... Mais dans le service. N'attendons pas d'être engagé pour être consacré. Je me souviens de... C'était à l'école biblique. Un de ses étudiants qui aspirait à avoir une charge de ministère. Mais on le voyait seulement prier lorsque soit il devait apporter la parole ou quand il y avait une action. Mais le reste du temps, il priait jamais. Mais chaque fois que là, on dit bon, on lui confie quelques tâches, alors là, on sentait que... Mais non, c'est pas ça le ministère, c'est pas ça la consécration. On doit être consacré, mais réellement. On nous disait tout à l'heure de Paul. Paul qui a été appelé, et c'est 10 ans après qu'il est parti dans son travail de missionnaire. Mais entre deux, il ne s'est pas croisé les bras. On le voit. Partout où il allait, il saisissait l'occasion pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ.
Amen, amen.
Donc entre les deux, on ne fait pas rien. Quand on voyait tout à l'heure les exemples d'Élisée, etc., c'était des hommes qui ils avaient reçu l'appel, ça, c'était dans leur cœur, intimement. Mais entre le moment où ils avaient ça et le moment où ils sont rentrés pleinement dans l'appel, ils n'étaient pas les bras croisés, ils servaient. Ils étaient engagés, ils étaient consacrés. Mais c'est pareil. Il faut se préparer en servant. N'attendons pas les choses. On dit « Ah, ça c'est enfin mon ministère ». Ben non, parce que c'est en faisant d'ailleurs que le ministère se précisera.
Amen.
Comment répondre à cet appel? En étant humble et fidèle. Il y a un principe qui est que c'est celui qui sera fidèle dans les moindres choses à qui l'on confiera les plus grandes. Et quand bien même, est-ce que si nous sommes même infidèles pour les petites choses là, mais qui va nous confier les choses qui ont de la valeur? Chaque détail aux yeux de Dieu a de l'importance.
Amen.
Parce que tout parle. Tout parle, mes bien-aimés. On le sait déjà entre nous. On a déjà cette intelligence à, à discerner les gens par rapport à leur manière d'être, de se tenir, n'est-ce pas? C'est naturel, on a du bon sens, de l'intelligence, on s'est fait pour ça, on est appelé à discerner les choses. Vous croyez que Dieu, lui, il est complètement gaga? Il sait pas s'occuper des choses, mais c'est pas grave, je t'envoie. Non. Il y a un très bel exemple, c'est David. L'onction royale. Hein, je sais que depuis tout à l'heure, t'as les yeux qui brillent. Ah ouais, roi de France, formidable. C'était une blague, hein, c'est une illustration. Mais n'empêche que... Il a remis son bonnet, du coup. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il est rentré chez lui. Il a dit à ses frères, à son père, hey, « Eh, les gars, là, c'est fini, vous ne me demandez plus rien. Moi, j'ai reçu l'onction royale, ok? Alors maintenant, vous me préparez des petits plats, vous me servez, et c'est moi qui donne des ordres maintenant à la maison, hein ?» Rien du tout de tout ça. David, il a continué à s'occuper du petit troupeau familial. Quand son papa lui disait « Va à gauche », il allait à gauche. Quand il disait « Va à droite », il allait à droite. Il était humble, il est resté dans sa simplicité de cœur. Il veillait, et quand on lui confiait le troupeau et qu'il devait gérer, il en prenait soin. C'est là qu'il a dû se bagarrer avec des ours, avec des lions, juste pour protéger quelques petites brebis. Mais c'est à cela que l'on voit celui qui a l'onction, celui qui a l'autorité spirituelle. Parce que dans les moindres choses, il va rester humble, fidèle, attaché. Parce qu'il sait qu'actuellement, c'est à cela qu'on l'appelle. Je dirais que pour se préparer également à l'appel, je dirais qu'il faut une formation théologique. Ça peut paraître un peu pratique, mais rappelez-vous que Jésus, quand il a choisi les 12 disciples, il les a eus premièrement pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Il les avait avec lui pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait de particulier, lui, avec ses 12 disciples? Il leur expliquait les choses en particulier. Si cet appel dans votre cœur, préparez-vous également au travers d'une formation théologique. Prenez ce temps, comme les disciples ont eu avec au pied du maître. Bon, vous n'aurez jamais le même. Hein. Et justement, parce que vous n'aurez jamais un Jésus qui ne sera pas capable de vous enseigner sur tout, c'est pour ça qu'il y a effectivement des hommes qui se rassemblent dans des instituts pour qu'effectivement on puisse bénéficier des différents ministères afin d'avoir ce cœur élargi à la compréhension des choses de Dieu. Apprenons également dans ce temps. Et je terminerai par ce point-là, même s'il a déjà été évoqué, mais il est tellement essentiel. Apprenons à être des hommes et des femmes de foi, de prière et de l'esprit. Les disciples aussi avaient reçu une mission. Annoncez l'évangile, allez! Mais attendez, d'abord, vous allez recevoir une puissance. Amen. Et c'est une fois que la Pentecôte est descendue, hop, qu'ils sont partis. Que nous soyons dans ce temps entre l'appel et l'envoi des hommes qui reçoivent cette relation avec Dieu. Tout chrétien est appelé à entretenir cette vie de prière. Tout chrétien est appelé à rechercher cette vie de l'esprit avec Dieu. Mais celui qui est appelé au ministère reçoit une charge qu'il ne sera jamais capable de porter tout seul. Parce que les défis qui sont devant vous vous écraseront. Et si vous n'avez pas de communion avec le Seigneur, vous êtes foutu. Je le rappelle, le ministère, ce n'est pas de se mettre en évidence, c'est d'être un instrument de bénédiction, mais pour le peuple de Dieu. Qui est le chef de l'Église? Christ. Si on perd cette communion avec le Seigneur, c'est plus Christ qui est le chef. C'est un bonhomme qui parle, c'est quelqu'un qui fait. On est comme Marcel, il dira oui, effectivement, aider les femmes prostituées, mais il n'y aura pas la puissance spirituelle qui délivrera les choses. Donc il est indispensable dans ce temps, dans ce créneau, comment répondre à cet appel? Seigneur, je veux me préparer dans cette relation intime avec toi. Je veux grandir dans cette relation avec toi. Je veux que mes expériences avec toi soient puissantes, fortes. Je veux être vraiment un homme, une femme attachée dans cette intimité avec toi. Je veux apprendre ce que c'est que la prière. Je veux apprendre ce que c'est qu'une communion spirituelle avec toi. Je veux être enraciné dans ta parole. Pas juste des à peu près ou du oui, j'ai entendu dire que. Non, il faut vraiment être des hommes et des femmes qui apprenions déjà à nous renouveler par le Seigneur. Parce que demain, lorsque vous serez au service, personne ne sera là pour vous renouveler, personne. Étant donné qu'on comptera sur vous pour renouveler les autres. alors il faudra que ce soit Dieu lui-même qui soit votre source de renouvellement.
Amen.
Et ça, ça ne se passe pas autrement qu'à genoux, dans la relation, dans la méditation de la parole, dans cette recherche de la face de Dieu. Être connecté au ciel. Non pas pour faire ce que nous voulons, mais pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Pour devenir l'instrument que Dieu veut que nous devenions. Peut-être que vous rêvez d'être un marteau. Mais ouais, mais si le Seigneur veut se servir de vous comme une truelle, vous allez vous faire quoi? Vous allez vous faire mal, vous allez vous entêter. Vous allez prendre un chemin. Oh Seigneur, je veux te servir. Mais oui, mais moi j'ai pas besoin d'un marteau, j'ai besoin d'une truelle. Et c'est seulement dans cette relation, dans cette intimité, dans cette soumission à l'Esprit de Dieu, à la volonté de Dieu. Comme disait Job, je fléchis ma volonté aux paroles de ta bouche. Et ça, ce n'est pas les hommes qui vous diront cela. Ce sera seulement et par l'Esprit de Dieu qu'il y aura ce travail pour que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Comment répondre à l'appel? Tout simplement, en restant nous-mêmes. Fidèle, intègre. Ça, c'est le béaba de tout chrétien.
Amen.
De rechercher la sanctification, l'amour des âmes, l'amour de la parole de Dieu, la communion avec le Seigneur. J'ai juste envie de vous dire que si vous avez cet appel, vous devez être un, j'espère que vous allez comprendre l'expression, un chrétien plus plus. Parce que ce que Dieu met sur votre cœur, c'est précieux. C'est précieux. Et c'est une responsabilité à la hauteur du ciel. Amen.